solo esta vez. Oh, 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 oh,
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Focus Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
Kassav, le concert de ses 40 ans à la Défense Arena, Monumental, est maintenant disponible dans un coffret Ultimate, double CD, double DVD. Le 11 mai 2019, la consécration est là. Un immense public chauffé à bloc, un décor démentiel et la magie peut opérer. Casa, 40 ans, le concert anniversaire en coffret, 2 CD, un DVD concert plus un DVD documentaire. Un concert mythique à savourer maintenant dans votre salon, disponible partout.
Ah, ça c'est pas ça.
USA, 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 USA.
For 4 years we have witnessed turmoil in America, but nothing quite like this.
We respect the law, we were good people. The government did this to us. We were normal, good, law-abiding citizens, and you guys did this to us. We want our country back. We are protesting for our freedom right now. That's the difference.
What's the purpose of storming Congress?
How do I know that?
They reached and entered the Speaker's office itself. Although Nancy Pelosi and other lawmakers had already been evacuated to safety.
There you go, brother.
As we filmed, protesters tore down Pelosi's nameplate.
And so here we are right now inside the halls of Congress. This is exactly what so many anticipated. And yet the Capitol Hill police are doing their best, but failing to control the situation.
L'assaut mené dans la soirée du mercredi 6 janvier contre le Congrès à Washington par les supporters de Donald Trump a créé un véritable choc aux États-Unis et dans le monde. 5 morts, dont un policier, 2 policiers du Capitole suspendus et plus d'une dizaine sous enquête. Avertissement urgent de la FBI, menace de mort à Joe Biden, Kamala Harris et Nancy Pelosi. Et manifestations armées prévues dans les 50 capitales d'État et à Washington DC du 16 au 20 janvier, jour de l'inauguration de Joe Biden. Il faut vraiment être idiot ou ignorant pour ne pas comprendre la trame des événements de ces derniers jours et même, je dirais, de ces 10 dernières années aux États-Unis. Trump n'est pas la pathologie, mais plutôt le symptôme d'un courant qui était déjà bien avant son arrivée au pouvoir il y a 4 ans. Vous êtes plusieurs à nous écrire, et nos amis haïtiens et africains nous écrivent « Parlons du comportement sauvage de l'oncle Sam, ce grand exportateur de démocratie et de leçons. Le hooliganisme des extrémistes de droite des États-Unis est démasqué en plein jour, et le monde entier a pu assister avec effroi au déclin de l'Empire américain. L'assaut sur le Capitole, ou le coup d'État manqué, est l'un des exemples les plus frappants de l'hypocrisie de l'Occident et de la notion du privilège blanc. Au début des années 1960, jumelant machiavéliquement messianisme et paternalisme, l'oncle Sam a tout tenté pour se débarrasser de Fidel Castro dans le but de démocratiser Cuba, tandis que les Noirs américains, eux, étaient privés de leur droit de vote, base fondamentale de la démocratie. Manifestement, rien n'a changé en ce qui a trait à cette aberration qui consiste à ostraciser les Afro-Américains. En 2021, des Blancs bienheureux peuvent s'attaquer violemment au Capitole en toute quiétude, alors que les Noirs ne peuvent circuler que dans les rues de l'Amérique sans se soucier de se faire tuer par la police ou des miliciens trumpistes. Imaginez un peu si ces manifestants étaient des Noirs. Les images spectaculaires de ce 6 janvier 2021, où l'Amérique a montré ses faiblesses, était saisissante. Comme le dit l'écrivain Oscar Wilde, les États-Unis d'Amérique forment un pays qui est passé directement de la barbarie à la décadence sans jamais avoir connu la civilisation. Au moment où je vous parle, et selon une source, les services secrets américains et canadiens sont à pied d'œuvre pour enrayer plusieurs attentats terroristes aux États-Unis. Une question pour vous. Pensez-vous que le Canada est à l'abri des groupes extrémistes et des attentats? Écrivez-nous à popourri@cut.fm. Selon plusieurs études et d'après les experts en sécurité, les groupes d'extrême droite qui se sont multipliés par 3 au Canada depuis l'élection de Donald Trump constitue maintenant la pire menace de sécurité interne qui pèse sur le pays, sur le Canada. Ensemble, restons vigilants, Agissons avant qu'il ne soit trop tard. À bon entendeur, salut. Dimanche 17 janvier 2021. Troisième émission de la nouvelle année. Bienvenue à bord. Welcome on board. L'ingénieur du son DJ Devera, production animation Eric Kader, collaboration spéciale Maître Peter Biro qui nous revient avec sa chronique. Cette émission est réalisée avec la précieuse collaboration de la maison d'édition Prise de Parole.ca qui a une offre unique de stage en ce moment. Allez visiter le site prisedeparole.ca pour tout savoir. Et un bonjour spécial à Janine Maillard, la fondatrice de FKZO, qui a été élue, tenez-vous bien, députée de l'État de la diaspora africaine. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et nous saluons bien sûr le magazine interactif de Radio France Internationale, Appel sur l'actualité, animé par Juan Gomez. D'Angelo Ménard, et oui, D'Angelo Ménard, à Port-au-Prince, Haïti, l'atelier des médias RFI, TV5 Monde, France 24, ITV News, RTBF Info, France Info, le magazine C'est dans l'air de France 5, Canal Afrique Plus en Côte d'Ivoire, Togo News World TV et les suggestions de nouvelles de Darna Sturu à Toronto. Une pensée spéciale au fondateur, animateur de l'émission Thalassa, Georges Pernou, qui est décédé le 10 janvier. Hommage spécial à CUTFM le 24 janvier prochain. Au sommaire de cette émission, l'insurrection du Capitole aux États-Unis le 6 janvier dernier. Retour sur cette journée inédite et spectaculaire reprise par les médias à travers le monde. Parmi les thématiques, l'Amérique déstabilisée, qui est à blâmer? Qui sont les complices? Est-ce le début d'une autre guerre civile? Y a-t-il des liens avec les nombreux mouvements de contestation tels que le printemps arabe ou les pays du Maghreb? Eh oui, c'était dans les pays du Maghreb. Les gilets jaunes en France. Et vu d'Afrique, les événements du Capitole sont un peu une leçon aux donneurs de leçons selon nos invités dans des médias africains. Ils seront des nôtres. Ont-ils tort? Ont-ils raison? Quel regard portent les journalistes et les correspondants de nos médias partenaires? Pourquoi les services secrets et les forces de l'ordre américains sont restés passifs face aux nombreuses menaces sur les réseaux sociaux? Eh oui. Et que faisaient des troupes extrémistes canadiens au Capitole à Washington le 6 janvier dernier? Selon plusieurs rapports, le Canada n'est pas à l'abri de violences similaires à celles de Washington. Pourquoi le gouvernement fédéral songe à ajouter les Proud Boys et d'autres groupes d'extrême droite à la liste canadienne des entités terroristes? Conspirationnistes, anti-système, suprémacistes et pro-Trump convaincus, qui sont-ils? Nous avons toute une brochette d'invités du magazine C'est dans l'air de France 5 et TV5 Monde, RFI, Togo News World TV à ne pas rater. Aussi au programme, le message de Francine Watkins, conseillère consulaire des Français de l'étranger dans la circonscription consulaire de Toronto, Ontario et Manitoba, notre partenaire de toujours. Nouvelle encourageante pour les Français de l'étranger au Canada et ailleurs. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a annoncé en effet la reconduction de l'aide COVID-19 pour les 10 premiers mois de l'année 2021. Cette aide a été mise en place en avril 2020 comme dispositif exceptionnel d'aide sociale ou si vous préférez, secours occasionnel de solidarité dans le contexte de pandémie mondiale de COVID-19. Plus d'infos sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ou visitez tout simplement notre site popourishow.com. Et merci à Francine Watkins et sa belle équipe. Aussi au programme, quels sont les artistes francophones à surveiller en 2021 sur la scène internationale? Eh oui, est-ce que vous avez des suggestions, des propositions à nous faire? Envoyez-nous un message, on vous donne nos coups de cœur de 2021. Les Cowboys Fringants, le groupe québécois le plus populaire, toujours en selle. Leur petit film avant les fêtes a connu beaucoup de succès. De France, Belgique et la Suisse, la flamme toujours vibrante, Cowboys Fringants. Escale en Côte d'Ivoire avec les garagistes, figure du zouglou ivoirien. Un style musical urbain né dans les années 1990 à Abidjan, les garagistes fêtent 25 ans de carrière et un succès qui ne se dément pas. En marge du mois de la francophonie au mois de mars, comment se porte la langue française en Côte d'Ivoire? La radio Trace FM d'Abidjan avec la très populaire émission Accusé, levez-vous! Et enfin, Black Power, notre série sur le parcours de combattants des artistes noirs francophones. On continue de briser les codes. Nous recevons le jeune comédien humoriste décapant franco-sénégalais, Ahmed Silla. Il fait carrière en France. Il est parmi les meilleurs humoristes français très demandés par les télés françaises et les festivals du rire. Ahmed Silla, préparez-vous à vous tordre de rire. Mais d'abord, les buzz de la semaine. Eh oui, les audiences publiques du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, sont officiellement ouvertes jusqu'au 27 janvier prochain. CBC Radio-Canada estime que le CRTC doit lui donner les moyens de se battre contre les géants américains que sont Netflix, Apple, Disney et Amazon, dont l'attractivité ne se dément pas au Canada. La barrière de la langue, qui a longtemps protégé le marché francophone, n'est plus un obstacle aujourd'hui, avançait le vice-président du réseau français Michel Bissonnette. Les données du dernier recensement nous confirment que la plus jeune génération est de plus en plus bilingue. Environ 80% des francophones canadiens âgés de 18 à 34 ans sont abonnés à Netflix. Catherine Tate, PDG de CBC Radio-Canada, dit, et je cite, « Si nous ne changeons pas notre façon de faire, nous risquons de devenir des dinosaures sur une calotte glaciaire qui fond. » Crise sanitaire en Ontario, situation inquiétante. Le gouvernement Ford adopte de nouvelles stratégies pour contrer la pandémie. Suivez les liens du gouvernement en visitant notre site popourichaud.com. Toronto demande à l'Ontario d'instaurer des congés de maladie, et oui, à tous les travailleurs. À l'heure actuelle, je vous rappelle que seulement 42% des travailleurs canadiens ont accès à des congés de maladie payés. En France, des étudiants de Sciences Po dénoncent l'emprise racialiste et indigéniste dans leurs cours. Dans une longue enquête apparue dimanche 10 janvier, Le Figaro dévoile l'extraordinaire influence prise par les mouvements indigénistes et racialistes des Sciences Po à Paris, et au point que certains élèves et professeurs se sentent menacés. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune est retourné dimanche dernier en Allemagne pour se faire soigner de complications liées au Covid-19. Sénégal, une affaire qui fait grand bruit suite à la disparition mystérieuse à Paris de Diary Sow, une brillante étudiante sénégalaise. Cette histoire provoque une vague de mobilisation via les réseaux sociaux. De bonnes nouvelles de notre confrère Maman à RFI. Outre sa célèbre chronique sur RFI, Maman a également créé la société Gondwana City Production et l'émission Le Parlement du Rire sur Canal Plus Afrique. Il veut désormais fonder son école de comédie. L'artiste nigérien, qui vient de lancer une plateforme de vidéos à la demande consacrée à l'humour africain, veut édifier en 2022 une école pour former les talents du continent. Et notre partenaire des éditions Prise de Parole est à la recherche d'un ou d'une stagiaire responsable du traitement de ses archives dans une, pour une durée d'un an. Stage rémunéré, nous dit-on, avec beaucoup de possibilités pour apprendre et se développer dans le milieu francophone. On cherche donc la perle rare qui aura envie de plonger les deux bras, le cou et la tête dans 50 ans d'histoire littéraire franco-canadienne. Le stage se fera en collaboration avec une archiviste professionnelle. C'est donc une occasion d'apprentissage unique. Vous avez jusqu'au vendredi 29 janvier pour soumettre votre candidature. Visitez le site prisedeparole.ca ou visitez tout simplement popourichaud.com. Le jour où l'Amérique a basculé dans le chaos, la chronique de Peterborough nous rappelle l'échec des républicains à éliminer un aspirant démagogue lors des primaires de 2015. Donald Trump a puisé son pouvoir dévastateur dans les nouvelles technologies dont l'impact sur les démocraties marque la mutation du populisme. Outrancier, caricatural, Donald Trump donne le sentiment d'avoir complètement abandonné toute prétention à la civilité. Eh oui, voici, madame, monsieur, maître Peterborough, auteur, homme d'affaires et philanthrope, conférencier, chroniqueur spécial de Popourri Show, CUT-FM.
En dépit des résultats finaux des courses présidentielles américaines, la démocratie en Amérique n'a guère été sur un terrain plus instable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Après l'assaut du Capitole par une foule qui était en fait une filiale à 100% du président, il est temps de rejeter la responsabilité de 4 ans de carnage américain aux portes du parti qui a eu la première et d'ailleurs la dernière meilleure opportunité pour l'empêcher. Plusieurs facteurs contribuent au recul démocratique qui s'est installé aux États-Unis et chez les démocraties constitutionnelles libérales de l'Occident. Mais il y a un facteur critique qui n'attire pas l'attention qu'il mérite. C'est l'échec des partis politiques à éliminer les aspirants démagogues et ceux qui, autrement, ne seraient pas aptes à occuper de hautes fonctions dans une société libre et démocratique. Parmi les nombreuses fonctions des partis politiques, y compris la mobilisation des électeurs, la facilitation de la gouvernance, la formulation de politiques et le contrôle critique du parti adverse lorsqu'il est au pouvoir, la fonction des partis qui retient le plus l'attention est peut-être son rôle de sélection des leaders. Dans une démocratie constitutionnelle, le travail de sélection des candidats, en particulier des chefs de parti, est extrêmement sérieux et conséquent. Bien qu'il y ait beaucoup de place pour les idées et des visions concurrentes à articuler et à poursuivre dans une société libre et donc dans un parti politique, il existe quand même certaines lignes rouges que les dirigeants démocratiques ne peuvent jamais être autorisés à franchir. De peur que le caractère libre et démocratique de cette société ne soit mis en péril, les gardiens de la première ligne des lignes rouges sont les gardiens du bureau du chef, à savoir les partis politiques qui choisissent les dirigeants qui se disputent ensuite l'élection à un poste exécutif. En identifiant les candidats minimalement acceptables, pour ne pas dire idéaux, à la plus haute fonction, les partis ont traditionnellement disqualifié les candidats qui font preuve de mépris pour l'état de droit, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la liberté de conscience et d'expression, les droits de l'homme, la séparation des pouvoirs entre les branches du gouvernement et les limites constitutionnelles du pouvoir exécutif. Bien entendu, dans une démocratie, les partis politiques sont particulièrement préoccupés par les tendances antidémocratiques manifestées par les dirigeants en herbe. Cette fonction de filtrage des partis politiques n'est pas toujours facilement remplie. Les qualités démocratiques et les instincts non démocratiques requis peuvent ne pas être évidents et même ne pas être présents au stade embryonnaire d'une carrière politique. Viktor Orban en Hongrie, par exemple, et Recep Erdogan en Turquie ont tous deux commencé comme réformateurs libéraux. Ce n'est qu'après leur réélection que leurs ambitions démagogiques se sont manifestées. Mais ce n'était pas le cas en 2015 lorsque le Parti républicain a choisi Donald Trump comme porte-étendard. Bien avant la fin des primaires, le mépris de Trump pour tout ce que la démocratie constitutionnelle libérale exige de ses administrateurs politiques est devenu clair. Plus que là, il est devenu la pièce maîtresse de la marque de fabrique de la campagne Trump. Pendant tout le mandat de Trump, et plus explicitement dans les derniers jours de son administration, Trump a été fidèle aux valeurs affichées en 2015. Il a méconnu le principe de l'indépendance de la justice. Il a contrecarré le contrôle constitutionnel du Congrès. Il a violé les droits de l'homme et des citoyens américains et des réfugiés et immigrants. Il a incité la violence en réponse aux résultats d'élections libres et équitables et menace à l'heure actuelle la tradition démocratique séculaire de transfert pacifique du pouvoir d'une administration à la prochaine. Les rues et les villes d'Amérique sont maintenant peuplées d'une génération de citoyens qui ont eu comme maître d'éducation civique ce président. Que les normes et conventions démocratiques soient damnées. Peter Biro, correspondant spécial, le Potpourri Show, CIUT FM.
Les gars, vous êtes d'accord qu'on vit une période de dingue? On en a marre de ce virus, pas vrai? Alors, faut qu'on fasse un truc ensemble. Quand tu vas faire tes courses, respecte la distance. Quand tu pousses ton chariot, tu stoppes et tu galopes. Tu stoppes et tu galopes. Tu suis les consignes et tu galopes. Et tu respectes la ligne et tu l'échappes. Tu dois avoir ce feeling pour les autres gens dans la même galère. Ensemble, ensemble. Tu stoppes et tu galopes. Tu stoppes et tu galopes. Tu stoppes et tu
Toronto.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yana Thérapeute a déjà fait ses preuves. Yana Thérapeute possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yana Thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligents. Contactez Noir et Psy, Yana Thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI. L'atelier des médias, Ziad Malouf.
J'ai toujours trouvé étrange ces sondages d'opinion qui évaluent la confiance que prêtent les individus aux organes de presse ou aux journalistes. Il y a tellement de types de médias et de qualités de publications différentes que cela me paraît absurde, voire malhonnête, de classer tout le monde ensemble. Que pensez-vous des restaurateurs? Que pensez-vous des écrivains? Que pensez-vous des chanteurs? Que pensez-vous des plombiers? C'est sûr que si l'on pose ce type de question à un individu, il aura toujours quelque chose à dire, à penser. Il est également certain que sa réponse aura une importance toute relative. Il ira au restaurant, il appellera un plombier, il écoutera des chanteurs, il lira des romans, tout cela selon ses choix, ses envies, ses goûts. Par quel miracle mettre tous les médias dans le même sac pour les juger aurait une valeur informative plus importante? Les plus grands détracteurs des médias sont d'ailleurs les premiers à les citer, les partager, les commenter, se tourner vers eux quand ils ont besoin de s'informer. Ils savent ou se doutent que Le Parisien, Le Monde, Libération, BFM, le JDD, TF1, France 2, LCI ne se valent pas. Je suis même convaincu qu'ils se sont rendus compte que tous les journalistes ne sont pas identiques au sein de ces médias. Certains sont précis, d'autres brouillons, certains tout jeunes, d'autres aguerris. Que pensez-vous des journalistes? Classez votre confiance par type de médias, papier, radio, télé, web. Toutes ces opinions sont absurdes. Ce qui achève de me convaincre de la toxicité de ce type de sondage, c'est quand je regarde les médias nés de cette défiance. Ces milliers de sites, de pages Facebook, de comptes Twitter qui annoncent d'emblée qu'ils n'ont plus confiance dans les médias traditionnels et que par conséquent, ils ont lancé leurs médias alternatifs. Infos non sourcées, usage permanent du conditionnel, rumeurs, en veux-tu, en voilà, désinformation, manipulation, triche, partialité, voilà ce que produit presque systématiquement la défiance envers les journalistes. Un grand n'importe quoi toxique et dangereux. Ne vous méprenez pas, je ne fais pas dans le corporatisme premier degré. Je n'ai pas confiance dans tous les médias, même au sein de médias que je respecte. Il y a des signatures dont je me méfie. Je vois et dénonce comme vous des abus, des courts-circuits, des travers, des collusions. Mais quelle que soit la taille de mon sac à critique, je n'y mets pas et n'y mettrai jamais tout le monde. Voilà qui est dit, bienvenue dans l'atelier des médias.
J'ai raté mon émission sur TV5 Monde.
Pour ne plus rien rater des programmes de TV5 Monde, tv5mondeplus.com. À vous de voir ou de revoir.
Arrêtez la propagation de la Covid-19. Évitez de mettre les autres en danger en restant chez vous si possible. Il est temps d'agir. La COVID-19 peut être mortelle. Restez chez vous. Suivez la COVID-19 sur ontario.ca/nouveau coronavirus.
Non, je ne comprends plus rien.
Déconfiné, reconfiné, redéconfiné, ça commence à faire chier.
Découvrir la Martinique autrement, ça vous dit ? C'est parti ! Au départ de la Marina du François, en groupe ou en couple, embarquez à bord de l'Arc-en-Ciel et découvrez les magnifiques fonds blancs du François et la baignoire de Joséphine. Dans une ambiance fun et festive, bourrée tractée, kayak, paddle, farniente, rythmeront votre journée sur l'Arc-en-Ciel. Bien sûr, boissons et repas inclus. Alors, contactez-nous, Caraïbes Évasion s'occupe de tout, même du bus. Infoline 06 96 336 336 336 336.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Adair. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM. Chaque dimanche, de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne de la Faculté d'Éducation de l'Université de Toronto, le Département d'études langagières campus de Mississauga, la Chaire de Recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prise de Parole, Educ Nation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
C'est l'image d'une Amérique divisée sans doute comme jamais qui est projetée ce soir sur les écrans du monde entier par milliers. Les supporters de Donald Trump expriment leur colère en ce moment même à Washington, au Capitole, le siège du Congrès où la séance censée valider l'élection de Joe Biden avait tourné à l'explication générale. Nous reviendrons dans un instant sur cette extrême tension. Des manifestants sont parvenus à s'infiltrer dans le bâtiment. Les élus ont dû être évacués. Marie-Jean Frick nous attend sur les lieux. Édition spéciale d'une demi-heure en direct sur i24.
Édition spéciale sur CUT 89,5 FM, Toronto. Le jour où l'Amérique a basculé dans le chaos. Les États-Unis ont offert au monde un spectacle digne d'une république de bananes. L'anarchie fomentée par Donald Trump, 5 personnes ont perdu la vie, journalistes et policiers attaqués violemment par des manifestants. Washington sous le choc, l'Amérique déstabilisée. L'insurrection du Capitole fait exploser les audiences à des chaînes d'infos. La séquence a été historique. Elle a été aussi sur le plan médiatique. Mercredi 6 janvier 2021, des militants pro-Trump chauffés à blanc et affichant des symboles de leurs idéologies néo-nazies et de la suprématie blanche saccagent le Capitole américain. L'inquiétude pour la démocratie a poussé les Américains à se ruer vers les chaînes d'information américaines dont les audiences ont atteint des records. Aux États-Unis, c'est CNN qui s'est imposé en tête des audiences avec 9 millions de téléspectateurs. Mais ce mouvement est aussi observé en France. Près de 1,7 million de Français étaient branchés sur France Info. BFM TV s'est imposé devant ses rivales. Sur la tranche, la chaîne a fédéré plus de 800 000 téléspectateurs, soit 7% du public français. La surprise vient de la chaîne Info, France Info, qui s'est hissée en deuxième position, devançant ainsi LCI et CNews. Fait sans précédent, le président Macron est intervenu dans cette crise du Capitole pour dire de ce qui s'était passé n'est pas américain. Selon nos informations, pendant que des milliers de partisans de Donald Trump manifestaient à Washington et envahissaient le Capitole, quelques dizaines de manifestants se sont aussi rassemblés au Canada. Revue de presse française cette fois-ci, et à la une, Washington sous le choc, l'Amérique déstabilisée, par Norman Navarro à Radio France Internationale.
Bonjour Norbert.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une de la presse française ce vendredi, Washington sous le choc, l'Amérique déstabilisée.
Même si le calme y est revenu, la capitale fédérale des États-Unis, placée désormais sous haute sécurité, s'est réveillée hier avec la gueule de bois, formule le quotidien Le Parisien. Après cette soirée d'émeute au Capitole qui s'est terminée sur un bilan de 4 morts, impossible également d'approcher la Maison-Blanche où Donald Trump est de plus en plus isolé, pointe ce journal. Attention, prévient le Figaro, Joe Biden est sur un volcan. Or c'est à lui qu'il revient de ramasser le miroir brisé dans lequel aime à se contempler la démocratie américaine et d'en recoller les morceaux. Et c'est une tâche monumentale qui s'annonce au sortir de l'ouragan Trump, avertit encore le Figaro. Alors certes, la gérontocratie démocrate sera bientôt au pouvoir, Biden a 78 ans, Pelosi en a 80, mais si ce quotidien se demande si la dite gérontocratie est taillée pour ce défi, il préfère s'en réjouir, car si on risque de s'ennuyer avec Joe Biden, après le feu et la cendre, l'Amérique a peut-être besoin d'un vieux sage pour l'aider à retrouver ses esprits.
On a pu le voir, Norbert, fait sans précédent, le président Macron est intervenu nuitamment dans cette crise du Capitole pour dire que ce qui s'y était passé n'est pas américain.
Eh bien non, estime Libération, contrairement à ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, ce qui est arrivé est profondément américain. La violence fait outre-Atlantique partie de l'éthos, au même titre que la liberté. Et le statut symbolique de la police du Capitole est l'un des éléments clés de leur séparation des pouvoirs, souligne ce quotidien. Américain donc ce qui est arrivé, mais pas que. Ces scènes hallucinantes d'une meute lâchée contre les symboles de la démocratie sont aussi profondément françaises, ou italiennes, ou britanniques, ou allemandes, prévient Libé. Il serait illusoire pour une démocratie aussi ancienne et confiante en son avenir qu'elle soit, de se croire à l'abri d'un boulangisme du XXIe siècle. Les populistes sont là, prêts à utiliser la moindre faille comme tout signe de légitimation de leur dangereux discours par le système démocratique et ses piliers.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il a fini par lâcher. Ce matin, Donald Trump a publié un communiqué promettant une transition ordonnée. C'est selon lui la fin du plus grand premier mandat de l'histoire. Mais l'histoire, avec un grand H cette fois-ci, retiendra surtout ces images de violence dans le temple de la démocratie américaine. Ces pro-Trump chauffés à blanc qui ont fait reculer la police. L'Amérique est sonnée. Les républicains les plus fidèles lâchent un à un Donald Trump. Certains démocrates demandent même une destitution à 13 jours de la passation de pouvoir. Pour eux, c'est bien le président lui-même qui a attisé la haine, conduit au chaos et humilié la première démocratie du monde. Ce matin, aux États-Unis, les questions s'enchaînent. Pourquoi ces failles de sécurité à l'entrée du Capitole? Qui sont ces ultras qui refusent encore la défaite? Que peut-il se passer maintenant jusqu'au 20 janvier? Ils ont marché sur le Capitole. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau. Vous êtes rédacteur en chef de l'actualité internationale au Journal du Dimanche. À lire sur votre blog ce dernier article que vous venez de publier. Aux États-Unis, la tentation fasciste. Nous y reviendrons. Alexandra de Hoopscheffer, vous êtes politologue, spécialiste de la politique étrangère américaine, des relations transatlantiques et des enjeux stratégiques. Vous êtes directrice à Paris du think tank German Marshall Fund of the United States. Nicole Bachand est avec nous ce soir, politologue, historienne, spécialiste des États-Unis. Citons votre livre Le Monde selon Trump, publié aux éditions Talandier. Avec nous en direct de Washington, Benjamin Haddad, vous êtes politologue, directeur Europe du think tank Atlantic Council. Je rappelle votre livre, Le paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes, aux éditions Grasset. Enfin, avec nous ce soir, Agnès Varamian à Washington. Vous êtes correspondante permanente de France Télévisions aux États-Unis. Bonsoir à tous les cinq. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais rester avec vous, Agnès Varamian. Donc, vous êtes en ce moment même à Washington. Je voudrais juste vous poser une question toute simple. Comment se réveille l'Amérique ?
Écoutez, sous le choc, sonnée, stupéfaite, et puis sidérée par ce qu'elle a vu sur les télévisions hier. Vous imaginez bien que ce qui s'est passé, certains le craignaient, notamment dans le camp démocrate, ceux qui craignaient un coup d'État. Alors, faut-il appeler ce qui s'est passé hier un coup d'État ? Je n'en suis pas certaine. Mais jusque-là, si vous voulez, la fin de Donald Trump était relativement pathétique, mais il s'agissait de mots, il s'agissait de rhétorique, d'action en justice qui n'aboutissait pas. Là, on est passé à autre chose, si vous voulez, à un degré supérieur. Et évidemment, pour les Américains, c'est extrêmement choquant. Il faut imaginer ce que représente le Capitole. Je pense qu'on en parlera un peu plus longuement. En tous les cas, c'est vraiment la sidération qui domine ici à Washington, où en fait, on s'est levé ce matin avec un couvre-feu depuis 18h hier soir.
François Clémenceau, c'est une humiliation pour l'Amérique, ces images ?
Oui, c'est une humiliation parce que s'il y a bien un endroit au monde où on pense que les institutions démocratiques fonctionnent, parfois très mal, mais fonctionnent quand même, et servent d'espoir à tant de gens à travers le monde qui viennent aux États-Unis pour s'y installer depuis plus de 2 siècles en espérant y trouver à la fois la liberté et la prospérité, c'est une considérable humiliation de voir que dans ce Capitole, qui est décrié par les Américains, ne l'oublions jamais, 75% des Américains estiment que le Capitole, la machine de Washington, ne fonctionne pas. Mais tout de même, il y a du respect lorsqu'on est patriote aux États-Unis pour le président et pour les institutions démocratiques, dont le Congrès.
Nicole Bacharan, votre réaction à la fois à ces images et ce qu'ont vécu les Américains, vous qui accompagnez l'histoire américaine depuis si longtemps ?
Moi, je dois vous dire que j'ai été absolument sidérée, choquée et très peinée, en fait, de voir ça. C'est vrai que quand on vit aux États-Unis, quand on grandit aux États-Unis, on considère le Capitole comme le symbole le plus fort, le plus haut de la démocratie américaine. C'est la maison du peuple, c'est là que le peuple est représenté, c'est le bâtiment le plus haut de Washington, il est sur une colline, il est haut en tant que bâtiment, hein, aucun autre building n'a le droit d'être plus haut que ce temple de la démocratie. Il y a quelque chose presque que je la qualifierais de religieux autour du Capitole, c'est une sorte de temple. Bon, moi j'y suis allée pour des rendez-vous, mais j'y suis allée aussi pour accompagner la classe de ma fille, parce que on faisait visiter aux élèves les grands lieux de la démocratie américaine. Dans la rotonde du Capitole, il y a la Constitution qui est exposée, etc. Il y a quelque chose de sacré, et je pense que énormément d'Américains, quel que soit leur bord politique, ont été extrêmement choqués.
Quel mot vous mettez sur ce qui s'est passé ? Au fond, depuis ce matin, en écoutant les commentaires des uns et des autres, en France et ailleurs, on voit bien que personne ne trouve le mot juste. Coup de force, tentative de coup d'État, insurrection, tentative de putsch. Quel mot vous mettez, vous, sur ce qui s'est passé, Nicole Bacharan ?
Alors, je dois vous dire que ma première réaction, ça a été de dire coup d'État. Parce qu'il s'agissait, par un président, d'instituer de lancer une foule pour prendre d'assaut le Capitole ou au moins entourer le Capitole, intimider les parlementaires et faire retourner le vote pour être déclaré vainqueur et ne pas lâcher le pouvoir. Maintenant, on a bien vu que s'il avait fait tout cela, derrière, il n'avait pas prévu l'étape suivante. Il y avait beaucoup de gesticulations. Il a abandonné ses supporters en race campagne. Et pour qu'il y ait vrai coup d'État, il aurait fallu que derrière, il y ait la force armée, donc l'armée dont Donald Trump, même s'il y a pensé, savait qu'elle ne suivrait pas. Mais refuser le résultat d'une élection pour rester au pouvoir, c'est peut-être pas tout à fait un coup d'État dans ce cas-là, mais ça s'en rapproche quand même.
Alexandra Daub-Schaeffer, ce qui a marqué dans ces images, c'est au fond qu'ils arrivent à marcher sur le Capitole. On a vu des policiers finalement assez tranquilles, reculer parfois sur certaines images. Il y a eu des failles de sécurité ?
Ce qu'il faut, la manière dont il faut interpréter cet événement, c'est vraiment l'acte final de la présidence Trump. Je pense que ça restera l'emblème de sa présidence. Malheureusement pour lui, finalement.
Mmh. La tâche.
La tâche vraiment qui restera. La deuxième chose, véritablement, c'est Trump met fin officiellement à l'exceptionnalisme américain. On a parlé effectivement de ce Capitole perché que l'on voit très bien, qui symbolise véritablement la démocratie américaine dans le monde. Et d'ailleurs, ce qui est particulièrement frappant, c'est de voir aussi les réactions partout dans le monde. Pour moi, ce qui est beaucoup plus dommageable aujourd'hui pour les États-Unis, c'est vraiment ce soft power américain. C'est vraiment la fin de ce modèle de la démocratie américaine, qui d'ailleurs a déjà été très abîmé. À mon avis, j'ai fait ma thèse doctorale sur la guerre en Irak. Depuis la guerre en Irak de 2003, la promotion de la démocratie à l'américaine est morte à Bagdad. Mais là, c'est un autre niveau. C'est ce modèle de la démocratie américaine qui est aujourd'hui remis en question. Et on le voit, l'Iran, la Russie, la Turquie, la Chine ont tous réagi en disant ces images symbolisent le déclin de la démocratie
Le déclin
occidentale.
De l'Amérique. La Russie officielle, ils voient le déclin de l'Amérique.
Exactement.
Une forme de jubilation de la part de certains adversaires des États-Unis.
Absolument.
À voir ces images-là. Je vous interrogeais, pardon, parce que oui. J'ai quand même de la suite dans les idées sur la sécurité.
Oui.
Parce que dans aussi l'image qu'on renvoie des États-Unis, il y a cette idée de cette forteresse démocratique imprenable, de la force. Et là, on a vu au fond des gens qui paraissaient assez peu organisés. Nicole Bacharan le disait tout à l'heure, ils n'avaient pas de projet d'invasion du Capitole. Ils sont rentrés un peu par hasard.
Alors, il faut comprendre comment fonctionne la sécurité à Washington. Et c'est très difficile parce que Washington DC, c'est à la fois une ville, c'est la capitale des États-Unis, c'est en même temps un district. Et donc, il y a une police qui dépend de la maire de Washington. C'est la police. Cette police-là, municipale, pourrait-on dire, n'est pas en première ligne lorsqu'il y a des manifestations, des émeutes, etc. Sur le Mall, là où se sont rassemblés ces dizaines de milliers de supporters de Donald Trump, c'est une autre police. C'est la police des parcs. Et elle est là pour surveiller, pour protéger les bâtiments qui sont là, qui sont des bâtiments, des mémoriaux. Il y a le mémorial de Jefferson, bien sûr, il y a le mémorial Lincoln. Et puis, il y a toute cette grande allée qui va jusqu'au Capitole. Elle est protégée par des policiers et surveillée par des policiers. Et puis, vous avez une troisième police qui est à l'entrée même du Capitole et surtout à l'intérieur, qui est la police du Capitole et qui obéit aux deux présidents des deux chambres, président du Sénat, président de la Chambre. Et donc, cette sorte de millefeuille administratif technocratique et policier a certainement effectivement des failles dans sa façon de se coordonner lorsqu'il y a une menace autour de ce monument. Si vous y rajoutez le fait que la maire de Washington n'a appelé la garde nationale que pour faire appliquer le couvre-feu à partir de 18h, mais pas pour, riposter face à une éventuelle émeute des manifestants, vous avez là des gaps de sécurité effectivement qui ont failli. Et beaucoup de médias américains s'interrogent ce matin sur le fait qu'il y avait pour les manifestations de Black Lives Matter à Washington ces derniers mois,
on les a vu, les images.
10 fois plus de forces de sécurité présentes en ville qu'il n'y en avait hier.
Et la garde nationale, qui avait aussi été massivement déployée à ce moment-là, et qui là a été déployée de manière beaucoup plus modeste. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir l'impact que ça va avoir aussi sur la révision des plans de sécurité pour le jour de l'inauguration.
Pour le 20 janvier.
Ah oui, absolument. Là, ils sont à fond là-dessus.
Parce qu'il y a des craintes aussi pour le 20 janvier.
Bien sûr, bien sûr.
On va évoquer tous les scénarios possibles d'ici à la passation de pouvoir. Juste Benjamin Haddad, vous avez vécu ça aussi en direct de Washington hier. Est-ce qu'à un moment donné, on a craint aux États-Unis pour les institutions, pour la démocratie? Ou est-ce que lorsque vous avez vu ces images de, encore une fois, de gens qui, une fois passées les violences, je rappelle qu'il y a eu 4 morts dans ce qui s'est passé hier soir, 4 victimes, il y a encore des incertitudes sur ce qui s'est passé à l'extérieur, on verra le profil de la jeune femme qui a été tuée à l'intérieur du Capitole, mais est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, de peur pour les institutions et pour la démocratie américaine?
Alors oui, je crois qu'il y a un moment de peur pour les institutions et la démocratie. Il n'y a pas vraiment de doute sur le fait que Joe Biden sera investi président le 20 janvier, qu'on va avoir une passation de pouvoir. Mais en fait, ce qu'on a vu hier, ça va laisser des traces durables dans la démocratie américaine. On se réveille aujourd'hui aussi avec des sondages qui disent que la moitié des républicains qui sont sondés soutiennent les manifestants qui sont rentrés dans le Capitole. Hier, 14 républicains. Vous savez, le Sénat devait voter pour certifier, confirmer les résultats des élections et donc l'élection de Joe Biden. 14 sénateurs républicains avaient dit qu'ils s'opposeraient à ces certifications. Alors, ils ont été un peu secoués par les événements, ça leur a fait peur, donc ils n'étaient plus que 6. Après, on a vu beaucoup de représentants, de députés républicains aussi voter contre la certification. Donc, ce qu'on a vu aussi là, c'est un symptôme de la violence des clivages et des polarisations, mais aussi de la popularité des théories du complot. Il y a beaucoup de gens parmi ces manifestants qui sont des partisans de la théorie de QAnon, d'autres théories d'extrême droite qui ont été largement soutenues, popularisées par le président Trump. Donc, je crois qu'il y a une menace réelle pour la démocratie et les institutions américaines qui est une menace plus profonde de long terme et qu'on a vu aussi à l'œuvre hier.
C'est important ce que vous dites, Benjamin Haddad. Ça veut dire que toute l'Amérique ne s'est pas indignée de ces images.
Non, de toute façon, c'est cette Amérique dont on voit les clivages. On a vu des sondages qui montraient effectivement qu'une partie de l'Amérique qui n'est pas représentée ici dans les élites, qui n'est pas représentée dans les médias. Vous savez, Washington, c'est une ville qui a voté pour Joe Biden à 95%. Et puis même les républicains de Washington, évidemment, ne soutiennent pas du tout ce genre de violence et d'insurrection. Mais il y a une colère qui gronde dans une partie de la population qu'on voit dans ce type de mouvance. Et je crois que ce sera très difficile pour Joe Biden de réconcilier les Américains. Je pense que ça pose aussi des questions véritablement existentielles pour l'avenir.
Vous venez de le dire, les sénateurs ont fini par certifier cette nuit la victoire de Joe Biden. Donald Trump, lui, privé de réseaux sociaux, a fini par accepter sa défaite. Il a produit un communiqué. Il aura fallu une journée de violence, de chaos et 4 morts pour qu'il accepte sa défaite. Mathieu Lignot, Nicolas Baudry-Dasson.
Il y a un article de presse aujourd'hui qui rapporte le fait très intéressant que le conseiller spécial du président Trump, Stephen Miller, aurait admis à ses proches que les choses auraient merdé, que les choses leur auraient donc échappé, que ça a dérapé, que c'était pas ce qu'il voulait faire. Et le fait qu'il l'avoue lui-même comme ça dans une conversation privée est significatif de l'ambiance qui a dû régner à la Maison-Blanche. Et le deuxième chose très important, c'est que l'avocat de la Maison-Blanche, Pat Cipollone, l'homme qui a défendu Trump devant le Congrès au moment de la procédure d'impeachment, a donné l'ordre aux collaborateurs de la Maison-Blanche, de la West Wing, de ne plus prendre d'ordre du bureau ovale hier. Parce que, lorsque les gens ont demandé pourquoi, parce que vous risquez d'être accusé de complicité de sédition. Je veux dire, on prend la mesure des choses avec ce genre de phrases et de mise en garde, et là aussi on peut regretter que ça arrive si tard, parce que ces deux hommes-là, en l'occurrence, ont accompagné Trump dans toute sa démarche de contestation des élections.
Et c'était Nicole Bacharan qui disait très justement tout à l'heure, je crois que c'était vous, hein, Nicole, qui disait il y avait la peur à la fois au Capitole, mais aussi dans l'entourage de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les Trumpismes, n'est-il pas plus fort que jamais, avec ou sans Trump, à votre avis, Alexandra Dobscheffer?
C'est en tout cas une tendance qui va... Les ingrédients du Trumpisme vont persister, et donc ce sera aussi à Biden d'avoir l'astuce de les prendre en compte dans sa politique. Et celui qui sera clé dans ce jonglage, ce sera Jake Sullivan, son conseiller à la sécurité nationale, un jeune quarantenaire brillant qui a très bien compris qu'il ne pouvait pas revenir à l'ère pré-Trump, voire à l'ère Obama.
Eh ben merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée à 22h30. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air en podcast et écouter gratuitement C'est dans l'air sur toutes les plateformes. Belle soirée. Demain, vous retrouverez Axel de Tarlé. Tout de suite, c'est à vous.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes, me rappellent à ton souvenir.
Ay, maman, buena lo buena.
A travers la cosa, a travers la cosa, ding et ding.
Écoutez la planète chanter.
Vous faire découvrir un homme et une émission de radio. Appel sur l'actualité. Une émission quotidienne diffusée sur Radio France Internationale. Et présentée par Juan Gomez depuis 15 ans.
Moi, je ne le connais pas précisément, mais vu selon ce que j'entends par sa voix, je pense qu'il doit être quelqu'un de costaud.
Une libre antenne mondiale.
Ah, il est beaucoup écouté, il est beaucoup suivi.
Le rendez-vous favori de millions d'auditeurs africains.
C'est un espace où chacun est libre de prendre la parole.
Pour mieux comprendre le monde.
On peut gagner quelque chose d'importance dedans, quoi.
Ça fait des années que j'essaie à chaque fois d'intervenir sur l'appel de l'actualité.
Comment le conflit a commencé en Libye?
Allez, c'est un grand type. Je l'ai vu. À Bamako.
Juan Gomez est le personnage incontournable et charismatique de cette émission.
J'étais ici hier, ça m'a beaucoup... J'ai beaucoup aimé. Je me suis dit que je vais venir voir ce qui se passe.
Il est même souhaitable que nos gouvernements aient ce type d'espace où vraiment les membres du gouvernement peuvent venir expliquer à des citoyens.
Juan Gomez a pour seul objectif chaque jour d'instaurer le dialogue, de prévenir ou de guérir des conflits, d'assurer le rapprochement des peuples et de contribuer à la paix. Juan Gomez donne la parole au monde. Juan Gomez, la voix de la francophonie.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Kassav, le concert de ses 40 ans à la Défense Arena, Mandal, maintenant disponible dans un coffret Ultimate, double CD, double DVD. Le 11 mai 2019, la consécration est là. Un immense public chauffé à bloc, un décor démentiel et la magie peut opérer. Kassav, 40 ans, le concert anniversaire en coffret, deux CD, un DVD concert plus un DVD documentaire. Un concert mythique à savourer maintenant dans votre salon, disponible partout.
Ah, ça serait pas ça.
Je suis un voyageur, j'ai le goût de l'ailleurs. Quand Bob s'est marié, quelle belle soirée à Bathieu, dans les hauts plateaux de l'Ouest. Pour l'une pluie, je n'étais pas en reste. J'ai dansé le Mundjang quand j'étais en Colombe. Et j'étais à Toliré quand ma fille est née. Et dans tous ces endroits, je veux partager mon émoi, recevoir des photos, uploader des vidéos. Je suis un voyageur. Quelle que soit l'heure, je veux pouvoir me connecter partout où je mets les pieds.
Partout où vous allez au Cameroun, profitez du meilleur d'Internet. Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI. We'll be right back.
Chers amis du bonheur, c'est Cause Kilti qui débarque chez vous. Cause Kilti pour célébrer la vie. Oui, je sais que le contexte est compliqué. Je sais que le contexte est fort anxiogène. Mais que voulez-vous? Comme a dit D.H. Lawrence dans la main de Lady de Chatterley, le ciel est tombé. Mais il faut continuer à vivre.
C'est l'image d'une Amérique divisée sans doute comme jamais qui est projetée ce soir sur les écrans du monde entier par milliers. Les supporters de Donald Trump expriment leur colère en ce moment même à Washington, au Capitole, le siège du Congrès où la séance censée valider l'élection de Joe Biden avait tourné à l'explication générale. Nous reviendrons dans un instant sur cette extrême tension. Des manifestants sont parvenus à s'infiltrer dans le bâtiment. Les élus ont dû être évacués. Marie-Jean Tric nous attend sur les lieux. Édition spéciale d'une demi-heure en direct sur i24.
Édition spéciale sur CUT 89,5 FM, Toronto. Le jour où l'Amérique a basculé dans le chaos. Les États-Unis ont offert au monde un spectacle digne d'une république de bananes. L'anarchie fomentée par Donald Trump. Quel regard portent les Africains sur ce qui s'est passé à Washington ? L'Afrique ironise aux dépens d'une Amérique donneuse de leçons. Les casques bleus doivent-ils intervenir à Washington? L'invasion du Capitole par des manifestants pro-Trump le 6 janvier dernier suscite l'ironie à travers l'Afrique, habituée à recevoir les leçons américaines en matière de démocratie. Et oui, sur le continent africain, secoué l'an dernier par une vague de crise, de putsch au Mali, au soubresaut en Centrafrique, en passant par les crises électorales en Guinée-Bissau, se prive pas de plaisir de se moquer du spectacle offert par les États-Unis. Ce qui s'est passé au Capitole démontre que les Américains reconnaissent enfin la valeur de l'Afrique et copient ses pratiques post-élection, plaisante un tweet malgache. Certains internautes appellent l'Union africaine à réagir, comme l'ONU réagit aux troubles dans les pays africains. Je vous invite, madame, monsieur, à faire un détour dans l'émission Regards croisés à News World TV à Lomé, au Togo. Violence au Capitole, quel enseignement pour l'Afrique ?
On continue donc avec les États-Unis, on parlait de ces violences au niveau du Capitole. Quels enseignements pour l'Afrique, généralement, c'est sur le continent, ou en tout cas au continent, qu'on colle des violences, des images de contestation électorale, comme les États-Unis sont en train d'en donner l'exemple aujourd'hui. Des manifestants ont envahi le Capitole au moment même où les élus étaient sur le point de certifier les résultats de la présidentielle qui donne Joe Biden vainqueur du scrutin. Finalement, au soleil Obeku, qu'est-ce qu'on va dire que l'Afrique n'est plus le mauvais élève de la basse-cour?
Non, pas du tout. On ne peut pas dire ça.
Le mauvais élève.
Oui, ça a montré qu'en démocratie, il y a toujours des hauts et des bas. Mm-hmm. Donc, les États-Unis étaient cités comme référence de la démocratie. Et ce qui s'est passé ces 4 ans, et surtout après l'élection présidentielle, prouve que dans toute démocratie, il peut y avoir des failles, des comportements ou des attitudes qui peuvent à un moment donné porter atteinte aux bonnes manières de la démocratie. Mmh. Mais ici, ça a quand même permis à ceux qui tirent chaque fois sur les États africains de ne pas pouvoir avoir une bonne démocratie, que la démocratie, aucune démocratie n'est parfaite au monde. Donc les États-Unis viennent de le démontrer. Mais ça ne peut pas quand même nous amener à ne pas faire les choses bien en Afrique.
Moi, je ne sais pas sincèrement ce qui s'était passé hier aux États-Unis, dans un lieu qui, en tout cas, est considéré comme le lieu le plus sécurisé au monde. Ça paraît quand même étonnant. Et ça fait peur. Et donc, je ne sais pas quelle leçon les États-Unis voudraient donner aux Africains. Et je me dis plutôt que la personnalité de Donald Trump a peut-être jeter du sable dans la démocratie des États-Unis. Heureusement que tout ce qu'il avait engagé comme procédure pour quand même diminuer ou jeter du sable sur les images de cette démocratie américaine n'a pas réussi, parce qu'il avait engagé beaucoup de procédures pour quand même dire, pour contester et pour peut-être faire pression sur les institutions aux États-Unis, comme quoi il pouvait quand même faire exactement comme on fait en Afrique, où les chefs d'État sortants qui font pression sur les institutions, qui les proclament, qui les réélusent, ça fait quand même, ça fait pas quand même du bien pour les États-Unis. Donc moi, je me dis que les Africains doivent quand même revoir leur copie, ne doivent pas suivre ce que s'était passé aux États-Unis, peut-être le considérer comme un incident. Et puis bon, revenir faire la vraie démocratie pour que l'Afrique... pour que l'Afrique là donne aussi de bons exemples aux États-Unis.
Bienvenue dans le débat de France 24. Cette fois, ça y est, Joe Biden n'est plus qu'à un cheveu de la Maison-Blanche, son élection validée pendant la nuit par le Congrès des États-Unis, dans une ambiance surréaliste après ces scènes de chaos. Le Capitole envahi par des manifestants pro-Trump a dû être évacué l'espace de plusieurs heures. Des images comme on n'en avait jamais vues à Washington. Pour France 2, le récit de Loïc Delamornay.
À l'assaut des murs du Capitole. C'est de cette manière qu'a débuté l'après-midi où l'Amérique a vu le temple de sa démocratie vaciller. Un peu plus tôt, lors d'un meeting, et alors que le Congrès va certifier la victoire de Joe Biden, Donald Trump clame une nouvelle fois que l'élection lui a été volée et donne cette consigne à la foule de ses adorateurs.
On va marcher jusqu'au Capitole, parce que vous ne reprendrez jamais votre pays par la faiblesse. Il faut montrer de la force.
Message reçu. Les Trumpistes investissent le Capitole, siège du Congrès des États-Unis, un bâtiment sacré pour des générations d'Américains désormais livrés au vandalisme.
C'est terrible de voir ça. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait une autre solution. Est-ce qu'il faut choisir entre se battre pour notre liberté ou devenir un pays socialiste? Je choisis le combat.
Ce qui se joue à cet instant est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. On entend certains de ces militants tenter d'entrer dans le Capitole à coups de bélier. On les entend frapper sur la porte du Capitole. Un incendie vient d'être allumé. L'Amérique, en plein cœur de sa capitale fédérale, vit des instants inimaginables jusqu'à présent.
Ça y est, les militants trumpistes pénètrent à l'intérieur. Les policiers du Congrès n'arrivent pas à les contenir. Panique dans l'hémicycle du Sénat, en pleine séance de certification de la victoire de Joe Biden. Les agents du Secret Service tiennent en joue la porte qui va craquer. Les sénateurs et même le vice-président Mike Pence sont évacués en catastrophe. Les Trumpistes ont désormais le champ libre pour des photos en forme de trophée. Celui-là s'installe au bureau de la présidente démocrate de l'Assemblée, Nancy Pelosi. Cet autre coiffe la statue du président Ford de la casquette rouge Trump. Ils laissent derrière eux des bureaux saccagés. Certains militants nous confient ce qu'ils espèrent obtenir avec ce coup de force.
J'espère que Joe Biden va aller en prison pour tous ses crimes.
Vous pensez que Donald Trump sera encore président le 20 janvier prochain?
Oui, il le sera toujours.
Dans ce chaos, au moins 4 personnes seront tuées, selon un décompte de la police, notamment une femme militante. En fin de journée, pressé de toutes parts et notamment par le président élu Joe Biden, Donald Trump demande du bout des lèvres à ses partisans de se replier.
Je sais ce que vous ressentez, mais rentrez pacifiquement chez vous.
Après plusieurs heures, les renforts de police reprennent le contrôle du Capitole. Les parlementaires reviendront sous très haute protection, l'épilogue d'une journée folle qui a secoué celle qui se présente souvent comme la plus grande démocratie du monde.
Et qu'en restera-t-il justement pour la démocratie américaine? La transition peut-elle encore être ordonnée, comme a fini par s'y engager au terme de cette nuit folle Donald Trump? On en débat avec ici même, à mes côtés en plateau, François Durpaire, historien, spécialiste des États-Unis à l'université Sergi Pontoise. Merci d'être avec nous.
Merci
François
Raphaël.
Durpaire également avec nous. Jeffrey Hawkins, ancien ambassadeur des États-Unis et chercheur à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour.
Avec nous aussi Paul Shore, maître de conférence en civilisation américaine à l'université Paris 7. Et puis depuis New York, Soufiane Al-Sabag, spécialiste de politique intérieure américaine et du Parti républicain, auteur de « La nouvelle droite américaine » aux éditions Démopolis. Soufiane Al-Sabag, ce communiqué de Donald Trump tombé pendant la nuit américaine dans lequel il s'engage à bien transférer le pouvoir à Biden de manière ordonnée, malgré, il le précise à nouveau, son désaccord avec le résultat de l'élection présidentielle. Vous l'interprétez comment ? Comme un engagement de sa part ou bien comme la réaction d'un homme dépassé par le mouvement qu'il a lui-même créé ?
Ce serait plutôt la seconde option, pour être très honnête. On voit très très bien que Donald Trump n'avait absolument pas conscience de la portée de ses paroles. Pour lui, c'était juste être Trump, essayer de mettre de l'huile sur le feu. Et in fine, ça ferait un petit événement médiatique, une espèce d'effusion, comme il en est extrêmement coutumier depuis 5 ans et demi. Sauf qu'effectivement, on a vu qu'il en était tout autre. Aussitôt que les premières violences ont commencé au Congrès, on est passé dans une autre dimension, totalement impossible de prédire à ce moment-là où les choses auraient pu aller. Et effectivement, on s'en est plutôt bien sorti, puisque ça aurait pu être un vrai coup d'État formel. On ne parle à ce stade que d'insurrection au Capitole, mais il n'en demeure pas moins que c'est un événement tout à fait inédit dans l'histoire politique américaine, et ça va rester comme une balafre terrible pour la démocratie des États-Unis, qui maintenant, ça va avoir des conséquences très concrètes, ne pourra plus se comporter de la même façon sur la scène internationale, ne pourra plus aller donner des leçons à tel ou tel pays, et ne pourra plus effectivement avoir la même position. Et ça, en fait, si c'est bien Donald Trump qui en est le tributaire, eh bien c'est Joe Biden qui va en payer les conséquences, qui lui deviendra bien président dans maintenant 13 jours.
L'actualité africaine, c'est tout de suite sur France 24, à la une ce soir.
Incroyable exploit réalisé par le Bénin.
Politique, économie, développement, art, toute l'actualité africaine est sur France 24. Sur le terrain, nos journalistes interviennent dans chaque pays, dans chaque région, pour témoigner de l'émergence d'un continent aux richesses inégalées. L'Afrique, c'est une histoire que nous écrivons ensemble, pour vous, sur France 24.
Restez avec nous, l'Afrique, sur France 24.
Liberté, égalité, actualité.
Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les gens de mon quartier, mes amis, ma famille. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, on doit tous porter le masque.
Tous contre un, tous contre la COVID-19.
Ce sont des gens qui cherchent un avenir meilleur et qui veulent à tout prix l'avoir.
On a vu cet automne des images déchirantes alors que la caravane des migrants aux États-Unis a provoqué une crise politique et humanitaire.
Nobody's coming in. It's a dangerous group of people. They're not coming into our country.
Ils sont encore nombreux à courir de grands risques pour venir chez nous.
Ils cherchent des alternatives et risquer leur vie, c'est l'une d'elles.
L'an dernier, notre équipe a suivi une famille de Congolais sur la route de tous les dangers.
J'ai laissé tout, je m'avance sans rien amener, je n'ai rien.
Partis du Brésil, ils ont réussi à entrer au Canada après un parcours parfois terrifiant.
C'est une route très souffrante. Je ne peux jamais conseiller à personne.
Ce soir, on vous montre la nouvelle vie de Rosette et de ses proches après une première année au Canada.
Ici, il y a la liberté. Moi, je vais rester ici.
Bienvenue à Enquête.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Attention, prêt, dégusté. RCI et vos restaurants Élysée vous invitent à découvrir la délicieuse cuisine de Prisca Morgeon. Tous les mercredis et vendredis à 11h, rendez-vous sur le Facebook de RCI Martinique et de Snack Élysée et retrouvez les vidéos Tété Douette. Des recettes savoureuses, équilibrées, faciles à réaliser chez vous. Alors faites-vous plaisir. Encore plus de bonus gourmands vous attendent sur le Facebook Snack Élysée.
Le racisme, il est partout. Mais il y en a qui sont plus délicats.
peut-être un racisme un peu sournois.
C'est plutôt un racisme police, comme on va rien dire devant toi, mais quand tu sors, c'est là que...
La personne a dit, oh, regarde ici, les Noirs commencent à envahir Sudbury. Prends le bateau et retourne en Afrique. J'étais figée sur place.
Et je suis allée au supermarché comme tout le monde. J'ai vu la réaction d'un citoyen qui essayait de m'éviter. Ça serre le visage, mais la COVID, ce n'est pas dans les yeux. Tu n'as pas besoin de serrer ton visage, détends-toi.
Et il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées. Nous qui luttons pour chercher le respect des autres. Nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte. Nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux. Nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à rise and shine.
CIUT 89.5, Toronto.
Élevez-vous tous les samedis de 10h à midi sur Trace.
Abusez, levez-vous! Vous avez été déclaré coupable.
Accusé, levez-vous. L'heure est arrivée de passer à la barre. Kassav, le concert de ses 40 ans à la Défense Arena, Monumental, est maintenant disponible dans un coffret Ultimate double CD, double DVD. Le 11 mai 2019, la consécration est là. Un immense public chauffé à bloc, un décor démentiel et la magie peut opérer. Kassav, 40 ans, le concert anniversaire en coffret, deux CD, un DVD concert plus un DVD documentaire. Un concert mythique à savourer maintenant dans votre salon, disponible partout.
Ah, ça c'est pas ça.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Kader, je vous invite à Popourri Show, le magazine de la francophonie. L'émission phare sur CUT FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le Département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions prises de parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Attention! C'est pour vous!
Et
oui, vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Nous entendons actuellement, bien sûr, un extrait de spectacle de Cassave, 40 ans déjà. Nous avons un coffret pour vous, madame, monsieur, si vous participez à nos émissions spéciales dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, au mois de février, et le mois de la francophonie tout au long du mois de mars. Allez, vous pouvez vous inscrire ou si vous souhaitez parrainer une de nos émissions, écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Et qui sait, vous courez la chance de gagner un coffret Cassave 40 ans. Et oui, à la découverte d'un autre artiste black dans le cadre de notre chronique Black Power sur CUT 89,5 FM, il s'appelle Ahmed Silla. Et là, vous entendez le générique « On ne demande qu'à en rire ». C'est l'émission qu'il a lancée en France, madame, monsieur, avec Laurent Ruquier. Et oui, Ahmed Silla, il voit le jour le 10 mars 1990 à Nantes. Ses parents sont originaires du Sénégal. Il commence le théâtre très jeune. L'apprentissage de l'art théâtral le passionne et le pousse à intégrer la troupe de Samba Show en 2010. Il jouera avec ses acolytes au Casino de Paris et au théâtre Bobineau. En parallèle, Ahmed Silla se produit dans des cafés-théâtres. Un producteur l'a remarqué un jour sur Internet où l'humoriste proposait une imitation d'un président de la République. C'est en 2011 qu'Ahmed gagne en visibilité en participant à l'émission Ne demande qu'à en rire, animée par Laurent Ruquier. Son premier passage le 5 novembre 2011 lui rapporte 68 points avec son sketch Les vendeurs à la sauvette traqués sans relâche. Il a débuté cette émission sous le pseudonyme d'Ahmed Sarko, mais Laurent Ruquier lui a conseillé de changer en conservant son vrai nom Ahmed Silla. Il passera une quarantaine de fois dans cette émission diffusée sur France 2. L'incarnation de personnages de toutes sortes lui vaut son succès auprès du public et la reconnaissance du jury. Les habitués du festival Marrakech à du Rire l'adorent. Aujourd'hui, Ahmed Silla est très connu en Europe, en Afrique, au Québec. Il fait du cinéma, il joue dans des séries télévisées. Il est unique en son genre, un humour décapant, imbattable, unique en son genre, comme je l'ai dit, sans plus tarder, madame, monsieur, Ahmed Silla.
Bonsoir. Toi, ça va? Toi, ça va? Toi, t'es là. Alors, ça va tout le monde ou pas? Ouais, je sais, là, en scred, vous avez envie que d'un oreiller et d'une couverture. Concrètement. Là, vous êtes au bord de la rupture, soyons clairs. Il est minuit et minuit. Et quelque part, là, vous dites, oh, le Renoir, il peut nous faire chier, tu vois. Mais je suis très content d'être là avec vous ce soir. Je suis très content de partager cette soirée you humour. Non, je suis très content d'être là avec vous ce soir parce que d'autant plus que ça n'a pas été facile pour moi d'arriver jusqu'ici. Parce que entre-temps, en fait, j'ai failli mourir sous les coups de mon père. Mais ceci dit, je le comprends, mon père, je le comprends parce que toute ma jeunesse, toute mon enfance, je lui ai donné beaucoup de fil à retordre. Énormément de fil à retordre. Beaucoup, beaucoup de fil à retordre. Le fil de la télé, bam. Le fil du micro-ondes, bam. Le fil de l'aspirateur, bam. Et comment il est long, le fil de l'aspirateur, ça. Moi, il m'a tellement tapé avec que quand il appuyait sur le bouton, c'est moi qui re-rentrais dans l'aspirateur. À la maison, on était quatre frères et sœurs et c'était moi le plus turbulent. Et le premier point de discorde avec mon papa...
C'était l'école. Hein? T'as frétillé, hein? Non, moi, c'était l'école. Si vous voulez, moi, j'étais le genre d'élève quand mon père recevait les bulletins scolaires à la maison. Papa, papa, attends, papa, s'il te plaît. Papa, arrête, papa, stop, papa, stop. Attends, pose ça, papa, arrête, stop. Attends. Bah oui, bah recule, alors. Attends, papa, s'il te plaît, parce que si tu regardes bien ici sur le bulletin, entre 1... Mais papa, on s'en fout des maths, la prof, c'est une raciste. Bah, tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit, ouais... Chez vous, les petits Africains, des fois il fait chaud et tout. Ma parole, elle a dit ça, je te jure, elle a dit ça. Attends, la tête de ma mère, attends, papa, s'il te plaît, attends. Non, papa, s'il te plaît, attends, parce que si tu regardes bien juste à côté, entre... Hein? Comment elle s'appelle? Madame Sissoko. Je te jure, c'est elle qui a dit, mais c'est pas moi qui l'a dit, papa, s'il te plaît, attends. Papa, s'il te plaît, attends, calme-toi, parce que si tu regardes bien, là, juste en dessous, en techno, j'ai eu 17 de moyenne. Et le porte-clés, je te l'ai offert ou pas? Hein? Et là, en musique et en art plastique, mais papa, attends, s'il te plaît. Papa, attends, pose ça. Papa, arrête, stop. Pas le grippin. Hein. Je suis déjà assez noir comme ça. Mais bizarrement, ce que je préférais le plus à l'école, ce qui me motivait le plus à y aller, moi, c'était la rentrée des classes. Tu sais, ce fameux jour de la rentrée des classes où t'as toutes les fournitures de la liste, toutes bien rangées dans ton cartable. Le cahier, l'agenda... La trousse, zip, zip. Oh, le compas aussi, tu piques, tu tournes. Oh, putain. Et en début d'année, le bout de l'équerre, il est encore pointu, putain. Et c'est aussi ce fameux jour de la rentrée où les profs passent la journée à te dire deux phrases. Et homme, ceci là, c'est fini les vacances. Et, ah bah, tu commences bien l'année, toi. On vous l'a déjà dit, hein? Bande de gardiens de la classe. Mais attention, attention, ça, dans le monde entier, c'est pareil. Dans le monde entier, on vit les mêmes rentrées des classes. En Chine, pareil. Bien vu. C'est à fini vacances. Quand lui a vacances, on caca qu'est-ce pour lui, un papa va me faire cater, on caca t'es pas l'aller. Pardon? En France, 2 mois vacances. T'es sûr? Ben nous en Chine, 2 minutes vacances, après on reprend le travail. Mais ça c'est pour, après nous on contrôle le monde. Pareil! Au Portugal, est-ce qu'il y a des Portugais ce soir dans la salle? Il y en a? Comment tu t'appelles? Hein? Juan. Donc, tu t'appelles Juan. Alors vous êtes chelou au Portugal. Juin. Mais non, ton père, il était bourré à la... Juin. Excusez-moi, monsieur, comment tu parles au bébé? Je l'appelle Juin. On l'appelle Juin. Si moi je dis, on l'appelle Juin. N'importe quoi. Mais au Portugal, on vit les mêmes rentrées des classes. Joseph, non, on va le faire attendre, bah oui. On va le faire avec ton prénom. Au Portugal, on vit les mêmes rentrées des classes. João, moustoukalaï, tu venais ici. João, c'est fini les vacances, là. C'est important de travailler de la retraite, c'est la de l'école, moustoukalaï, tous les jours, je répète. C'est important de travailler de l'école. C'est important de travailler de l'école. C'est important de travailler de l'école. Allez, nous y allons tous ensemble. On va construire l'école. Pareil. La même chose. C'est vrai ou pas, João? Aux Antilles, est-ce qu'il y a des Antillais ce soir? Ouais, toujours en retard. Ouais, on est là, monsieur. On est là-haut, mais on est là. On va pas, mais on... Frère, à minuit, là, il n'y avait personne aux Antilles. Hein. Aux Antilles, on vit les mêmes rentrées des classes. Paul Nesto, il faut se réveiller. C'est fini la vacance. C'est la rentrée. C'est important l'école. Allez, au boulot tout le monde. Top, allez, bonnes vacances. On se revoit dans 2 semaines.
Allô. Non, moi, j'ai vite compris. Moi, j'ai vite compris que l'école, ça n'était pas fait pour moi. Tout comme le sport, d'ailleurs. T'as vu comment je suis gaulé? Pourquoi tu rigoles, toi? Non, c'est vrai que tu peux te marrer. Et pourtant, j'ai essayé le sport. Je vous assure, j'ai essayé le taekwondo, par exemple. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Le taekwondo, c'est pas le sport le plus facile, mais c'est ma mère qui m'a motivé. Elle m'a dit, Ahmed, essaie le taekwondo. Ça pourra te servir contre ton père. Alors, le taekwondo, c'est tout ce qui est self-défense. Attaque placée, maîtrise du corps et de l'esprit, sur la voie des pieds et des poings. C'est la définition Wikipédia, je l'ai apprise par cœur. Moi, j'ai fait qu'un cours. Je suis parti avec ma mère, je suis rentré avec les pompiers, tu vois. Arcade sourcilière ouverte, trois points de suture, cloison nasale perforée, tibia cassée. La personne qui m'a fait ça, je lui en veux encore aujourd'hui. Marie-Cécile, putain. Et en rentrant à la maison ce soir-là, ma mère m'a fait Ahmed. Ahmed, non, non, et non. Ahmed, c'est Marie-Cécile, la petite blanche, qui t'a fait ça. Ah mais non, non, mais non, mais non, mais regarde-toi, elle t'a bloqué comme le pharaon, quoi, bien. Ah mais là, non, là, franchement, là, tu vas m'y. Ahmed, là, tu vas m'y con, tiens. Ahmed, là, franchement, là, tu exagères. Ah non, là, Ahmed, là, tu exagères. Ahmed, tu pouvais au moins éviter les coups. Marie-Cécile, elle est aveugle.
Abusez-vous. Permettez-moi de me défendre devant la nation.
Oui, vous allez vous défendre.
Tu peux me tuer, mais...
général.
L'émission. C'est ça que j'appelle un marmaille.
D'accord, général.
Mais il n'y a que les idiots qui ne peuvent pas comprendre.
Très bien, général.
Il y a plus de filles qui ne sont plus vierges, qui ont perdu la virginité, mais qui ne sont pas dans le foyer.
Avant de répondre à cette question, on part au Gabon. Allô, bonjour maître, votre nom s'il vous plaît.
Appelez-moi Maître Touré.
Maître Touré, vous appelez de quelle juridiction?
Je vous appelle de Cocody.
J'appelle de France.
Je vous appelle depuis le Maroc. J'appelle depuis l'Allemagne.
Je vous appelle de Paris.
J'appelle de New York. J'appelle de Lausanne.
Et on vous écoute, vous accusez, vous défendez?
J'accuse.
Non mais là je l'accuse.
Je défends.
Je l'accuse aussi.
Moi je suis l'avocat de l'invité.
D'accord, allez-y.
Il doit changer un peu parce que la vulgarité ne n'arrange rien.
C'est vous, vous êtes très ingrate. C'est moi qui ai dit, je ne danse plus pour Arafat.
Je fais mon sein. J'ai envie de le refaire.
De refaire encore?
Normalement, ici, je dois être porté.
Un caleçon, un caleçon.
Et puis, maille de bain.
Arafat, c'est chinois, moi, mais légionnaire. Les parkings sont partagés. Toi, tu as fait hommage là combien de fois?
Arafat, c'est toi.
Tu dis quoi?
Tu es le seul actif.
Toi, tu es son papa.
Objection.
Non, 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 s'il vous plaît.
On ne parle pas de votre naissance.
J'aimerais revenir, votre honneur, s'il vous plaît.
Allez-y.
Sur la question de l'habillement sur scène de mon client.
Chacun est libre de penser et de le prendre comme il veut.
Je préfère qu'on se concentre sur le cas Eunice.
Moi-même, je sais que je suis vilaine. Vilaine, là. Ça, je sais.
Non, pas jusque-là.
Mais où est Bonne Star, là? Franchement, ça, c'est fou.
Merci à la partie civile, voilà, qui applaudit dans ce studio déjà.
Accusé, levez-vous tous les samedis de 10h à midi sur
Rhino Energy Malt de Brasivoire. Brassé avec le pouvoir naturel du malt, avec de la caféine, taurine, ginseng et vitamine. Augmentez votre performance. Cherchez la boisson énergisante malt avec le Rhinocéros. Un produit Brasivoire. Abus dangereux pour la santé.
Oula, pas évident. Salut, c'est Nicolas Georges, un didgeridoo, un boomerang. Vous l'avez deviné, je vous emmène en Australie, à Sydney, très exactement, pour le tour du monde de la francophonie. L'Australie, où de plus en plus de francophones s'installent depuis une quinzaine d'années. On découvrira leur nouvelle vie dans ce pays continent. Et puis, une question également. Dans un pays à 80% anglophone, quelle est la place de la langue française et de la culture francophone? On en parlera avec mes invités sur le plateau, des invités du milieu culturel et artistique, des acteurs, des comédiens, des responsables d'événements et de festivals. Et puis vous, vous pourrez également réagir sur les réseaux sociaux, hashtag TDMF. Allez, vous venez avec moi? Je pense que ça va être assez sympa.
RFI, toute la diversité du monde. Avec l'appli Les Indes Radios, la musique bouge avec vous. Où que vous soyez, où que vous alliez, écoutez nos radios et web radios en direct. Un titre vous plaît? Ne le laissez pas filer. Réécoutez-le instantanément ou ajoutez-le à votre playlist pour le retrouver plus tard. Déjà 2 millions de téléchargements. L'appli Les Indes Radios, la bonne des radios.
Sta fesalena, smettila di fare la bambina, poi mo se termine. Sta fesalena, smettila di fare la bambina, poi mo se termine. Sta fesalena, sta fesalena, sta fesalena, sta fesalena. vois ton corps se dandiner. Dans ma tête c'est Katrina. Ça fait Selena. Ma baby, ma mazina. Quand tu m'as dit que c'est terminé, j'avais mal à la poitrine. Ça fait Salina. Ma baby, ma mazina. Quand je vois ton corps se dandiner, dans mon cœur c'est Hiroshima. Ça fait Salina. Ma baby, ma mazina. Je sais que ton cœur est chagriné, c'est toi la perdante au final.
Vous écoutez Popori Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Sur CUT 89,5 FM, Toronto. Quels sont les artistes francophones à surveiller en 2021 sur la scène internationale? Vous venez d'entendre en première position un chanteur rappeur bruxellois que nous aimons beaucoup ici. Il s'appelle Tausen, il vient de sortir Almawa, son second EP. Jeune musicien qui mêle pop, rap, musique arabe et africaine. Tausen, 22 ans, se distingue par son grain de voix à la noirceur toute colorée de ses clips. Prometteur, il est managé par la même équipe que celle de Damso, la pointure actuelle de la musique belge. Eh oui, Tausen avait déjà tracé sa route avant d'être entouré de professionnels. Né en Italie, de parents marocains, arrivé en Belgique à l'âge de 11 ans, il se passionne pour la musique à l'adolescence. Il décide, comme d'autres artistes, de présenter son travail sur Internet. Son premier morceau, Resté, un titre qui lui a valu plus d'un million de vues. Et oui, Aucun remords, un autre titre qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Une canzone amore. J'espère que mon italien ne me trahit pas. Et oui, cette chanson dépasse les 500 000 visionnages, madame, monsieur, il faut le faire. Pour lui créer de la musique, c'est comme faire du surf. C'est lui qui le dit. C'est aussi une façon de voir son processus créatif qui explique le titre d'Almawa, son deuxième EP, sorti le 22 novembre de l'année dernière. Tausen, la nouvelle voix de la pop-rock belge, un artiste qui promet. En deuxième position, un autre artiste à surveiller, James BKS. Son style est afro-pop, afro-rap. Il est originaire de Cameroun, France. Depuis 2019, il offre des formations live au service d'autres artistes. Il a actuellement 3 singles à son actif depuis 2018 et un EP annoncé pour 2020, Walls in Africa, c'en est le titre. Un temps compositeur pour les cadors du hip-hop américain qu'il ne croisait jamais, comme Puff Daddy, Rahul, T-Pain, Snoop Dogg, Talib Kweli, tous ces chanteurs que vous connaissez sans doute. James BKS a senti le besoin de remettre ses compteurs artistiques à zéro. De retour en France, il renoue avec ses racines camerounaises et son père biologique, le saxophoniste Manu Dibango, qui est décédé malheureusement de la Covid-19 l'année dernière. Signé sur le label de l'acteur Idriss Elba, ses productions mêlent désormais percussions africaines, hip-hop et mélodie pop pour un résultat afro-futuriste entêtant à l'image de son tube. À surveiller New Breed avec la rappeuse anglaise Little Sims et la légende américaine Q-Tip et Tribe Called West. Sans plus tarder, madame, monsieur, un titre qui connaît un succès, un franc succès actuellement dans plusieurs radios en Europe et en Afrique. No Unga Bunga. James BKS sur CUT 89,5 FM en exclusivité.
Et
BKS, un des artistes à surveiller, madame, monsieur, en 2021. Dimanche prochain, nous avons un invité surprise en direct de la Martinique. On oublie l'hiver, on oublie le froid, on oublie le Canada et la neige. Allez, dépaysement garanti dimanche prochain à ne pas rater sur CUT 89,5 FM. Et avant de tirer notre révérence, je veux saluer tous nos amis auditeurs haïtiens pour leur soutien, leur message. Vous êtes nombreux hein, à nous écrire. Merci mille fois, merci en pile. Cette année 2021 marque le 11e anniversaire du séisme dévastateur qui non seulement emporta une bonne partie de l'infrastructure de certaines villes comme Port-au-Prince, Jacmel, Léogane, causa des dizaines de milliers de morts, mais aussi marqua à jamais les esprits par le traumatisme qui en résulta. Le bilan fut catastrophique, à plus de 112 000 morts, de près de 200 000 blessés et 120 000 sans-abri. Je vous invite à lire l'ouvrage de Jean-Marie Bourgeli, Haïti, un pays à désenvelopper, regorge de détails édifiants sur le fonctionnement de cette commission mise en place sur les fonds alloués pour aider Haïti à se relever. C'était tout un scandale. Le livre dépasse le cadre strict de la reconstruction post-séisme. On y trouve également deux chapitres, l'un consacré à l'introduction du choléra par les soldats de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, et l'autre à la transition politique en Haïti, deux événements qui portent encore l'empreinte de l'ingérence étrangère sur le pays. Puis nous avons reçu une lettre ouverte des Haïtiens au gouvernement canadien. Le kidnapping est devenu inquiétant en Haïti et c'est désormais tous les jours que des personnes sont enlevées, séquestrées, libérées, contre rançon ou exécutées si la famille ne réussit pas à satisfaire aux demandes des ravisseurs. Législatif que judiciaire et fonctionnant uniquement par décret, une quarantaine au cours de l'année 2020. Le parti au pouvoir fait tout pour prolonger son règne en dépit du mécontentement de la grande majorité de la population. L'actuel président voudrait prolonger son mandat d'un an en vertu d'une interprétation de la Constitution rejetée par les spécialistes. Il voudrait utiliser cette année supplémentaire pour adopter une nouvelle Constitution et procéder à des élections législatives sous son contrôle. Donc, ces gens demandent au gouvernement du Canada d'adopter également dans ce dossier une démarche conforme à sa tradition et à un axe fondamental de sa politique internationale. Pour la concertation pour Haïti, cette lettre est signée Elisabeth Garand, Hélène Gobeil, Jean-Claude Icard, Marie Marcellet, Marlène Ratto. Et oui, madame, monsieur, nous allons vous laisser sur un air des tropiques. Popri Show, l'émission qui vous fait voyager chaque dimanche à 34 ans déjà. Et merci de votre fidélité. L'Amérique pleure bientôt sur vos écrans. Et oui, on dirait un album de prédilection. C'est le groupe Les Cowboys Fringants qui a présenté pendant le temps des fêtes un spectacle virtuel à grand déploiement, regroupant 16 de leurs chansons dans un film tourné aux quatre coins du Québec. L'Amérique pleure, le film réalisé par Louis-Philippe Hainaut, présenté comme un grand road movie tourné en pleine nature avec des caméras dernier cri pour mettre en image les chansons de ce groupe qui célèbre 25 ans de carrière, qui a eu beaucoup de succès dans la francophonie internationale. Ils étaient même sur TV5 Monde au mois de décembre. Les Cowboys fringants ont récolté 5 Félix au plus récent gala de la disque en 2020, dont ceux du meilleur groupe et de la meilleure chanson pour l'Amérique pleure de l'album Les Antipodes. Jean-François Posé a reçu quant à lui le prix Socan de l'auteur-compositeur de l'année. C'était au gala annuel de la Socan de 2020. Place donc aux Cowboys fringants, suivi d'un groupe que j'ai découvert récemment grâce à mes amis à RFI, mais aussi à TV5Monde, les Garagistes, figure du Zouglou ivoirien, un style musical urbain né dans les années 1930 à Abidjan. Les Garagistes fêtent 30 ans de carrière et qui connaît un succès qui ne se dément pas. C'est le cadeau de toute l'équipe pour ce dimanche. Je remercie tous nos médias partenaires, DJ Devera, Peter Biro, Darna Storou, Jean Jubeneau, Janine Maillard, nouvelle députée de la diaspora africaine, qui sera des nôtres, je l'espère, dimanche prochain. Peut-être je prendrai dimanche prochain comme un petit repos, parce que j'en ai vraiment bien besoin. On verra bien, hein? Sinon, mes amis, compères, commères de RFI vont me remplacer sans problème. Allez, je vous souhaite un bon dimanche, bonne semaine et que la force soit avec vous. Allez, place aux Cowboys fringants.
Sac de vie devenait comme un trésor de ses humains, enneigé à construire des igloos, et entre les déjeuner, jusqu'à temps qu'on passe partout. Mais au bout du chemin, c'est moi ce qui a resté, de la petite école ou un cours de récré. Quand les amis ont appris le pas, nous en bas, c'est ça que l'on pense finalement, une étoile finale. Dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule, la trentaine, la pénètre, les membres, l'hypothèque, les bonheurs et les fêtes, les bons goûts, les échecs. Travailler, faire son mieux, la machine, s'en sortir et espérer être loin que la langue de mon rêve. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Le petit passage dans son monde est très long. Après avoir existé pour gagner du temps.
numéro 1 en Martinique.
Pour me blesser.
Énergie Antilles, numéro 1 sur les gifts. Numéro 1 sur les cadeaux. Numéro 1 sur la proximité avec les auditeurs. Numéro 1 sur les artistes. Numéro 1 sur les concerts. Numéro 1 sur la bonne humeur. Énergie. Encore et toujours votre radio numéro 1. Énergie, it's music only.
Salif Sabana.